On va commencer pour les sorties par Vice d'Adam McKay, un portrait survitaminé de Dick Cheney, ex-vice-président américain qui a largement redéfini sa fonction, et notamment dans la décision d'attaquer l'Irak, ou comment raconter ce chapitre majeur de l'histoire américaine avec humour, acidité et intelligence, entre farce et tragédie, sans oublier le rôle majeur de la femme de Dick Cheney, véritable Lady Macbeth. Elle est incarnée par Amy Adams, aux côtés donc de Christian Bale et de Steve Carell. Sacré film. Le silence des autres, je me suis trompé sur le titre au début.
Oui, les autres, pas les morts.
Le silence des autres, pardon. 1900, ça va vous intéresser, Jonathan. 1977, deux ans après la mort de Franco, dans l'urgence de la transition démocratique, l'Espagne vote la loi d'amnistie générale qui libère les prisonniers politiques, mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 80 sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10 000 km des crimes commis en Argentine pour rompre ce pacte de l'oubli. C'est un peu aussi la libération de la parole.
Ah oui, oui, oui. Et c'est un superbe documentaire produit par les frères Almodovar. Il faut le souligner, le signaler. Ce ne sont pas eux qui réalisent, mais il y a vraiment là un propos très très beau, partant de cette loi assez incroyable qui, au fond, amnistiait tout le monde, c'est-à-dire les exactions franquistes et surtout aussi en face les morts républicains qui n'avaient donc rien à voir, en quelque sorte les bourreaux et les victimes. Voilà ce qu'amnistiait cette loi un peu scélérate. Et franchement, le portrait qui est fait de tous ces gens qu'on retrouve, de ces mères qui attendent qu'on leur rapporte le cadavre de leur fils pour lui donner une sépulture décente, enfin, tout ce mouvement de mémoire, toute cette reconstruction d'un passé dont on ne doit pas être évidemment dont on ne doit pas rougir quand on a été en quelque sorte du bon côté, c'est un très très beau documentaire dont l'utilité est évidente.
Eric Caravaca, votre côté espagnol, réagit à ça?
Ben oui.
Vous connaissiez ce...
Oui, oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, je connaissais tout
cette histoire,
ouais. Bien sûr. Ouais, ouais.
Le silence des autres, c'est le titre du film.
Deux fils, premier film, premier long de l'acteur Félix Moati. Joseph et ses deux fils, Joachim et Yvan, formaient une famille très soudée, mais Yvan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu'il voit s'effondrer, car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père, Sepúlveda, a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d'un écrivain raté. À lire les critiques plutôt positives, j'ai dû passer à côté de ce premier film inachevé, maladroit, qui survole les intrigues sans les résoudre, plus intéressé à capter les états d'âme de ses protagonistes. Cela ressemble à du De Pléchin, mais sans De Pléchin et la profondeur, avec une idée de cinéma très ambitieuse, c'est vrai, bien écrit, bien joué, mais sans écorcher vraiment, sans fouiller plus dans les failles de ses personnages. C'est un défaut de maturité sans doute. Alors on va dire qu'on attend la suite du parcours de Félix Moati. Dans la terrible jungle de Caroline Capel et Omblin Lay, filmé à l'Institut médico-éducatif La Pépinière dans le Nord, le quotidien d'adolescents handicapés où la musique joue un grand rôle.
Oui, les chansons notamment, c'est peut-être l'aspect en tout cas qui moi m'a personnellement le plus intéressé, comment en quelque sorte les chansons, ça va aussi bien de la Marseillaise que la chanson d'Henri Salvador qui donne son titre au film dans La Terrible Jungle, vous vous souvenez, le lion, tout ça, voilà. Comment la chanson est en quelque sorte un peu thérapeute, comment elle peut aider à mieux vivre quand on est dans ces handicaps-là, qui sont évidemment lourds, bien sûr, on le voit au quotidien. Alors après, le propos des deux cinéastes qui font notamment rejouer des scènes, moi, et donc qui fait tout le film est entre documentaire et fiction, me pose un peu plus de problèmes et j'ai ressenti une sorte de malaise par rapport à certaines scènes justement jouées, rejouées, peut-être déjouées. Et c'est là, à mon sens, la limite de ce film qui s'appelle « Dans la terrible jungle ».
Un autre premier film, « Les drapeaux de papier ». Le garçon, quand il l'a tourné, avait 18 ans. Il en a 19 maintenant. Il s'appelle Nathan Ambrosioni. Bon, on n'est pas dans le Guinness Book. Je sais qu'on l'a comparé à Dolan et d'autres. Bon. Mais lui n'a pas l'ambition scénaristique d'un Félix Moati. Son histoire est simple. Un garçon, Guillaume Guix, sort de prison après 12 ans, retrouve sa jeune sœur et tente de se réinsérer malgré la grande colère qu'il habite. Résultat, un pur geste de cinéma au présent. Heureusement, pas de flashback. On a déjà vu des parcours de réinsertion, c'est vrai. Mais celui-là décrit de façon très juste les rapports frères-sœurs, installe les silences, distille l'émotion et révèle aussi une grande actrice de demain. Elle s'appelle Noémie Merlant.
Oui, je suis d'accord sur ce que vous dites sur les qualités du film, et singulièrement la distribution, les acteurs. Mais franchement, au bout d'un moment, quand même, on se trouve... Enfin, moi, je me suis trouvé face à des ectoplasmes, la sœur empathique, le père emmuré dans son silence, le frère bourru, mais sympathique au bout du compte. Je trouve quand même qu'il y a un manque de scénario, il y a un manque de chair, il y a un manque d'incarnation qui fait qu'au bout d'un moment... Alors, effectivement, on a dit, ça c'est incroyable, Malick et Dolan, je comprends pas comment on peut alourdir à ce point-là la barque d'un jeune cinéaste en lui disant qu'il ressemble à du Malick et du Dolan. Mais c'est terrible, c'est un enterrement de première classe. Alors oublions ces cinéastes-là, et faisons en sorte, j'espère qu'il fera lui en sorte d'être un peu plus attentif aux histoires qu'il a envie de raconter.
Non, c'est un vraiment très joli premier film, sensuel et...
On y reviendra.
Et très senti. Un ange de Cohen Mortier avec Vincent Rottier et Fatou Ndial. Un sportif célèbre, il est cycliste professionnel, tombe amoureux d'une prostituée lors d'un voyage au Sénégal. Lorsqu'il trouve la mort dans des circonstances douteuses, elle est arrêtée malgré son innocence. C'est inspiré d'une histoire vraie.
Ah, il y a inspiré d'une histoire vraie, ça. Bon, enfin, c'est pas aujourd'hui qu'on devrait relire, mais enfin, il faudrait pas toujours que ça soit la rustine sur une mauvaise roue. Très franchement, là, tout est étrange. Alors, les couleurs sont étranges, les atmosphères sont étranges, les sentiments sont étranges, les figures, les visages sont étranges. Tout devient étrange, tout devient tellement glauque que, personnellement, je n'ai eu aucune envie de rentrer dans ce film, d'être au plus près de ces personnages. Alors, il y a un baroque parallèle entre le cyclisme et la prostitution. Je pense que ça va faire hurler les amateurs de la petite reine, mais très très franchement, je n'ai rien compris à l'esthétique d'abord de ce film et à son propos ensuite.
Long Way Home, encore un premier film signé Jordana Spirou sur l'Amérique, comme on dit, des laissés pour compte. Elle, Angel, à 18 ans, sort de prison pour petite délinquance avec l'idée, l'obsession de venger sa mère assassinée quelques mois plus tôt. Elle rejoint sa petite sœur qui vit dans une famille d'accueil à Philadelphie. Besoin de vengeance d'un côté, grand besoin d'amour de l'autre, le film les suit dans leur périple chaotique. Si la dramaturgie est prévisible, elle est vite, et c'est bien, tant le sujet est tentant, tout pathos, tout altermoiement, grâce essentiellement à ces deux jeunes actrices, Laurent, leur force et leur énergie.
Ah bah oui, mais voilà le vrai premier film de la semaine qui s'intéresse à l'histoire d'une sortie de prison. Voilà, là, c'est un film qui, effectivement, me nourrit plus que le film français précédent dont nous avons parlé, parce que franchement, ces deux sœurs, elles sont d'abord merveilleusement incarnées, et puis c'est ça l'histoire du film, vraiment, c'est leur retrouvailles, leur rencontre. Il y en a une, Abby, qui chante et l'autre pas. Abby qui rit, Angel qui pleure, mais progressivement, elles vont se retrouver, elles vont être ensemble. Et ça, c'est vraiment un très très beau processus de film, dans une très très belle réalisation, attentive au paysage notamment.
On termine par une reprise du premier film de Bertolucci qui s'appelle Les Recrues.
Et oui, film, il a 21 ans, Bertolucci, quand il se fait ce premier film qui s'appelle La Camarde, c'est-à-dire là, la mort en italien. Pourquoi ça s'appelle Les Recrues en français? Je n'ai toujours pas compris pourquoi. C'est sur une idée de base de Pasolini, mais on est beaucoup plus proche ici d'Antonioni que de Pasolini. C'est un beau, très très beau premier film.
L'un de vous quatre n'a jamais joué avec Chabrol? Ou l'a rencontré? Non, personne. François Martorey non plus.
Je l'ai rencontré, mais...
Et oui, alors documentaire, voilà, dimanche soir, soyez devant Arte, parce que vous pourrez revoir ou voir juste avant la nuit, chef d'œuvre, la cérémonie, chef d'œuvre, et entre les deux, un documentaire signé Cécile Mestre Chabrol. Chabrol, l'anticonformiste, tout est presque dit, c'est un régal de retrouver l'œil malin, amusé de Claude Chabrol.